Radio Prague, les informations.
Inauguration de la conférence internationale Forum 2000 à Prague. Le Conseil républicain du Parti des Verts a discuté à Brno de la participation du parti au gouvernement. Record des chiffres dans une vente aux enchères, 22 millions de couronnes pour un tableau de František Kupka. Prague accueille la conférence Forum 2000, dont la première édition eut lieu sous l'impulsion de l'ex-président tchèque Václav Havel il y a 11 ans. Parmi les personnalités invitées au forum, on note l'ex-chef de la diplomatie américaine, Madeleine Albright, l'ancien président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz, ou l'avocate iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003 pour son action en faveur des droits de l'homme, des femmes et des enfants en Iran. Le thème principal des débats de cette édition, la liberté et la responsabilité. Le Conseil républicain du Parti des Verts s'est réuni dans la métropole morave de Brno pour discuter de la situation de ce plus petit parti gouvernemental au sein de la coalition après la démission de la ministre de l'Éducation d'Anna Kourtova. Les critiques de la direction actuelle du parti demandent que les Verts aient une plus grande influence dans les ministères et à d'autres postes clés de l'administration publique. Au programme aussi la recherche d'un candidat pour remplacer la ministre démissionnaire, ainsi que la recherche d'un candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en février prochain. La question de l'implantation d'un radar américain sur le territoire tchèque dans le cadre d'un bouclier antimissile américain en Europe pour faire face aux dangers venant notamment de l'Iran a été discutée dans un débat dominical télévisé. Parlant des compétences pour l'emploi du système, le chef de la diplomatie, Karl Schwarzenberg, a dit que la défense antimissile américaine serait intégrée dans les structures de l'OTAN, mais il serait dans les compétences de l'armée américaine d'employer la fusée antimissile en cas de menace. Le ministère des Affaires étrangères prépare le plan de départ progressif des soldats tchèques de l'Irak. Selon Karel Schwarzenberg, qui en a informé, le retrait concernerait en premier lieu les soldats implantés à Bassora, au sud de l'Irak. La mission des policiers militaires tchèques qui forment à Bagdad les officiers de l'armée irakienne devrait continuer. Le record des chiffres a été atteint ce dimanche dans une vente aux enchères à Prague. C'est au palais de Joffine et l'heureux acquéreur a mis sur la table 22 100 000 couronnes pour un tableau de František Kupka, l'élévation de 1938 qui est une œuvre clé de la période de l'abstraction pure de ce peintre. Un ciel clair, un nuageux, du brouillard matinal et des températures situées entre 14 et 18 degrés marqueront la météo de lundi, jour de la fête de toute la Riviera. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Jirka Gusublova. Merci de les avoir suivies. Ah!
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, cette semaine je vous propose d'aller à la rencontre d'un peintre français d'origine tchèque, Miloslav Mocha. Dans ce rendez-vous de Culture sans frontières, vous aurez l'occasion de découvrir la première partie de l'entretien que j'ai réalisé avec ce personnage entière. Sa naissance en 1942 dans la région des Sudètes a eu quelque chose de déterminant dans le processus de maturation du jeune homme dans les années 1960, par le destin historique de cette région après-guerre, mais aussi par les personnalités de la culture tchèque que Mocha y a rencontrées alors. J'ai rencontré Miloslav Mocha à l'occasion de l'inauguration de son exposition à la galerie Kaj de Kaj à Prague, où une partie de ses œuvres sont à voir jusqu'au 7 décembre.
Monsieur Miroslav Moucha, bonjour. Vous venez de publier un récit autobiographique tchèque qui s'appelle Le Petit Livre, Malá Kniha, aux éditions Dauphin, il y a quelques mois. Et dès la première page, en fait, vous vous expliquez pourquoi vous avez publié ce livre, pourquoi vous l'avez écrit en tout cas. Est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu ce que vous dites en introduction de votre livre ?
Cet texte était destiné au départ pour une monographie sur la peinture, sur la mienne. Et d'habitude, il y a des historiens d'art, les critiques d'art, qui écrivent cette chose-là. Et quand l'artiste ou le peintre, comme je suis, est mort, tout le monde est tout content parce qu'on rassemble quelques documents et on fait un roman. Alors moi, étant vivant, je me suis dit, je vais le faire tout seul, avec ce que je sais et que personne ne va savoir après. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire ce texte pour ce grand livre. Et quand cette monographie est sortie, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de monde qui ont lu le texte, qui se prêtaient le livre parce que le livre était cher. Et je me suis dit, au bout d'un certain temps, que ça peut être intéressant, si ça intéresse des gens, de faire un petit livre avec d'autres textes que j'ai fait depuis les années 70. Et puis le Dauphin, quand il a vu le texte, il m'a proposé de l'éditer. Et ça promet à peu près 15 ans. Donc au bout de 15 ans, on a fini par le faire.
Si je comprends bien, vous n'aviez pas envie qu'on brode sur votre parcours, sur votre vie et vous...
Oui, mais vous savez très bien qu'on fait des mythes, chacun le sien. Et bien moi, je préfère faire savoir quel est le mien, parce que je le sais mieux que celui qui va en fabriquer un.
On va revenir un petit peu en arrière. Donc vous êtes né le 25 mars 1942, c'est ce que vous marquez, au pied des monts métallifères, Krušné hory en tchèque. À Dolní Litvínov, puisque c'est la région où vous êtes né, est-ce que c'est une région qui vous touche toujours aujourd'hui ? Est-ce que c'est, par exemple, aussi une région qui vous inspire ?
C'est une région qui était totalement abandonnée, comme on sait. Après 1945, les Allemands étaient déménagés en Allemagne. La population donc, a diminué très fortement. Il y avait des gens qui venaient travailler, bien payés, avec l'intention de ne jamais s'installer là. Ce qui fait que cette région a perdu une identité, c'est-à-dire que le caractère de cette montagne était donné surtout par les Allemands. Puis ils étaient plus là, donc la montagne était abandonnée. Moi, j'ai vécu comme un petit garçon dans cette région. J'ai des souvenirs qui sont qu'on peut pas raconter parce que c'est des sentiments très bizarres de maisons. J'ai encore vu des maisons à la campagne, dans la montagne, où c'était ouvert. On entrait et sur la table, il y avait une nappe avec des tasses de café et c'était abandonné. Il y avait des chapelles qui étaient totalement détruites par des gosses comme moi. On a démonté des orgues pour avoir des sifflettes. Et puis des cimetières qui étaient abandonnés. Enfin, c'était très curieux pour les enfants. Et quand j'y pense maintenant, à cette atmosphère, c'est comme un monde qui n'existe plus. Je ne peux pas dire que ça m'inspire, mais je crois que ça a formé une certaine sensibilité, en tout cas une part de ma sensibilité.
Quand vous disiez que vous aviez ces images de maisons où en fait on entrait, il y avait une table et encore des tasses de café, c'est comme si en fait les gens venaient juste de partir. C'était dans ce sens-là que vous vouliez dire, comme s'il y avait un moment dans le temps qui s'était arrêté.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'était, on dirait, non, surréaliste. C'est-à-dire, vous voyez un intérieur qui est soigné. On voit qu'il y avait des gens qui ont vécu. Et il y a de la poussière, il y a des pailles, il y a la fenêtre qui est cassée, mais il y a encore une nappe et un tasse qui était rempli par les cafés, mais il n'y a plus rien, quoi, c'est tout.
Vous dites donc dans votre livre aussi que vous avez découvert donc l'art un peu par hasard, quand vous reveniez en fait d'une permission de votre service du service militaire. Est-ce que vous pourriez un petit peu me rappeler rappeler aux auditeurs exactement comment ça s'est passé?
Non, c'est pas du tout aussi simple. C'est que j'ai dessiné quand j'étais petit, j'ai peint, mais j'ai pas pensé que ça va être quelque chose que je vais poursuivre. Par contre, je pensais que je vais être écrivain. Mais quand j'ai vu ce tableau, enfin cette introduction de tableau de Van Gogh, ben, j'étais totalement ébloui et je pensais qu'avec ce moyen-là, donc la peinture, on peut exprimer d'un seul coup ce que dans la littérature on doit développer, on doit expliquer. Peut-être la poésie peut fonctionner comme ça, mais je n'ai jamais pu écrire un vers, même comme on a 15 ans et on pense qu'on est amoureux.
Donc pour vous, la peinture, ça a un côté synthétique?
Oui, si on veut, c'est-à-dire que ça se regarde d'un coup, ça se fait dans le temps, mais ça se consomme, si on veut, instantanément. C'est-à-dire qu'on est devant un événement. Et il faut que celui qui est devant le tableau soit surpris. Et on peut être surpris comme ça comme spectateur si celui qui l'a fait est surpris lui-même. Et c'est ça ce qui m'intéresse.
Hey Jude, so daddy patch, what you body, as zebo, víc nemá, jen malý poslední dát, znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hey Jude, že má tě rád, to se v písních tak snadno zpívá. Na hrubu všech písní, kde končí rým, tam příleží stín, který nám zbývá. Svět je krásný, svět je zlej, hej Jude, věř mě, do vínku nám dál víc ran a bolí.
J'ai été surprise en lisant aussi votre livre. Vous êtes entourée. Alors après, je pense c'est à peu près dans les années 60, si j'ai bien suivi la chronologie, vous êtes entourée de personnes, de personnalités de la culture tchèque très importantes. Enfin, vous côtoyez Jan Zabrana, Ivan Divich et d'autres personnes. Vous avez connu, en gros, des personnalités tchèques extrêmement importantes pour l'art tchèque.
Oui, mais ça, c'est grâce au communisme, parce que quand on sait, tout le monde sait maintenant que les intellectuels de ce calibre-là étaient très souvent envoyés dans les usines, travaillaient dans les mines, sur les ponts, enfin, la maçonnerie. Et il se trouvait que, étant donné que la région où j'étais né, où j'ai vécu, était une région dure, donc les persona non grata étaient envoyés là. Et c'était comme ça le cas de mon maître Joseph Jedlička, qui était parachuté dans cette région avec sa femme comme médecin. Et puis autour de cette famille se réunissaient des amis, comme Jivich, comme Zabrana et d'autres. Ben c'est comme ça que j'avais mon éducation intellectuelle et artistique. C'était vraiment grâce au communisme. C'est paradoxal, mais c'est comme ça.
C'est paradoxal. Et en fait, du coup, je suppose que, puisque vous avez donc décidé de partir en 1969 en France, je suppose que ça a été dur aussi de quitter ce monde-là, en dehors du fait que vous aviez votre vie ici. Vous dites que vous avez que votre départ a été très dur. Vous avez quitté donc la Tchécoslovaquie en 1969 par peur des persécutions et sans grand enthousiasme. C'était aussi parce que vous perdiez aussi toutes ces personnes qui étaient autour de vous, je suppose.
En printemps 68, nous avons fait la politique pendant 3 mois. Il y avait plus de censure, donc on pouvait écrire dans les journaux librement. Et évidemment, Jedlička, qui était le chef de ce groupe à Litvinov, n'a pas tardé à se prononcer. Puis, quand les armées de Pacte de Varsovie arrivaient en Tchécoslovaquie, il y avait des recommandations pour certaines personnes partir parce qu'on ne savait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir la guerre ou est-ce qu'on va enfermer les gens ou est-ce qu'on va faire la persécution globale ou non. Bon, je suis parti, Jedlička est parti, Diviša resté, il y avait quelques personnes qui ont resté. Et puis, je pensais que je vais retourner en Tchécoslovaquie, je vais revenir et j'attendais ce qui se passe. Il ne se passait pas grand-chose, donc je suis revenu dans le pays au début de l'année de 69, enfin à Pâques. Et c'est là le moment où ça commençait à être dur. Donc je suis reparti en sachant que je pars pour au moins 5-10 ans. Enfin, je suis parti pour 23 ans.
Pour finir, j'aimerais vous lire un extrait de ses écrits qui révèle un peu de son rapport à la peinture et au monde qui l'entoure. Car si Miloslav Moha parle peu de ses tableaux, car il estime que les mots sont inutiles, ses réflexions et ses observations en disent plus que la simple description d'une toile. Par une soirée pluvieuse, je me promenais à la périphérie de la ville. Dans la couronne d'un jeune châtaignier, je vis scintiller des cercles concentriques. Un lampadaire était allumé derrière l'arbre et la lumière était captée par les gouttes de pluie tombées sur les branches. Comme tout écolier, je connaissais et pouvais expliquer ce phénomène physique, mais je ne pouvais en cet instant m'empêcher d'éprouver une sensation de miracle. La géométrie est la naissance du monde, et à travers elle, nous pouvons en comprendre la conception. Je ne vois pas le paysage comme un peintre, la nature, je vois le détail. Voilà, c'est la fin de Culture sans frontières. Vous retrouverez la deuxième partie de cet entretien dès la semaine prochaine. Et bien sûr, vous pouvez le relire et le réécouter à l'envi sur notre site internet www.radio.cz. Merci à toute l'équipe de production pour la préparation de cette émission et la mise en onde. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bon vent et ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Alain Slivinsky.
Comme nous sommes au début du mois d'octobre et qu'en tchèque on l'appelle JN, un mot qui est dérivé de JN, qui veut dire rue, il nous semble approprié de parler du rue des cervidés qui a lieu depuis le mois de septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le accouplement, la chasse, les chasseurs, mais aussi le tourisme dans cette nouvelle édition de notre rubrique hebdomadaire. Cela a lieu tous les ans au début de l'automne et comme nous l'avons dit, tout au mois de septembre et d'octobre. Si vous allez dans les bois et forêts tchèques, il ne sera pas rare que vous preniez peur en entendant le chant du cerf en rue. Il est vrai que ce chant est un peu lugubre par son ton. Souvent, un autre cerf qui se trouve dans les environs répondra aux appels du premier. Appel ? Oui, car c'est par son chant que le cerf appelle vraiment les biches pour pouvoir s'accoupler avec elles. La période du rue des cervidés est toujours attendue avec impatience, non seulement par les chasseurs, du moins ceux qui ont payé pour recevoir le permis de tirer, ou les membres des unions de chasseurs en Tchéquie, mais aussi tous les amis des... En plus de cela, la période du rue est aussi celle où le plus grand nombre de chasseurs étrangers arrivent par diverses agences de voyage. Ils sont de plus en plus nombreux et arrivent souvent avec toute une panoplie d'instruments qui permettent d'imiter le chant du cerf et l'attirer ainsi vers eux. À part les chasseurs, le nombre de ceux qui attendent la période du rut des cervidés, non pas pour chasser, mais tout simplement pour avoir le plaisir d'admirer ces rois des Féroé tchèques, est de plus en plus important. Voir un cerf en rut, en train de chanter au beau milieu d'une clairière, laisse vraiment un souvenir inoubliable. Parlons du chant du cerf, et vous ne l'avez peut-être jamais entendu. Alors, en voici un petit échantillon. Impressionnant, non? Et qui est l'auteur de ces tons rauques à l'oreille humaine, mais si prometteurs à celle des biches? C'est le cerf d'Europe. Il peut atteindre dans les 250 cm de long et une hauteur de 150 cm. En fait, c'est le plus gros animal que nous pouvons rencontrer dans les forêts et bois tchèques. Les biches qu'il attire par son chant sont d'un tiers plus petites. Le corps du cerf est recouvert d'un pelage brun-rouge pendant l'été et tire sur le gris en hiver. Le cerf peut être fier de ses bois, mais aussi d'une crinière au moment du rut et pendant tout l'hiver. On le trouve sur tout le territoire de la République tchèque, mais surtout dans les forêts de feuillus ou mixtes, donc feuillus et épicéas. Il n'est pas rare de le rencontrer au petit matin ou dans la soirée, dans les champs des exploitations agricoles, surtout dans les bocages, où il trouve aussi bien de la nourriture que des endroits pour se cacher. Le rut, ou la période des amours, rassemble toujours une sorte de harem du chef, le cerf le plus fort des alentours et ses biches. Il n'est pas rare qu'il soit obligé de lutter farouchement contre des prétendants, et ces duels sont très recherchés par les amis de la nature, mais aussi les chasseurs. En effet, l'un des rôles des unions de chasseurs est d'entretenir une faune saine dans les forêts. Souvent, après un dur combat, l'un des cerfs est blessé, même grièvement, et il s'avère nécessaire de l'abattre. Une besogne que les chasseurs n'aiment pas, mais qui est indispensable pour entretenir une bonne condition des cervidés et surtout assurer la sécurité des chasseurs ou des promeneurs. Il faut savoir en effet qu'un cerf victime de blessures est très dangereux. Les cerfs en rut attirent par leur chant les biches pendant toute la nuit. Pendant la journée, ils se reposent, et souvent, ils ne mangent presque rien. Il n'est pas rare qu'un cerf perde dans les 20% de son poids pendant le rut. Les biches mettent bas après 8 mois, le plus souvent au début du mois de juin. On peut les voir après, accompagnés de 1 ou 2 fans. Les mâles deviennent adultes à 2 ans, mais ils ne commencent leur rut qu'autour de 4 ans. Jeunes, ils sont très agressifs, mais n'ont pas beaucoup de chance face au chef de la troupe, plus expérimenté et plus fort. Les cervidés vivent en troupe pendant toute l'année, sauf pendant la période des amours. Les jeunes mâles forment le plus souvent des troupes indépendantes. Les vieux mâles vivent en solitaire et sont la cible des chasseurs, car leurs bois sont les plus importants. En cette période de rut, les unions des chasseurs qui prennent soin de tout le gibier qui vit sur le territoire de la République tchèque appellent les automobilistes à la vigilance. En effet, il n'est pas rare, surtout à l'aube et dans la soirée, que les biches ou un cerf traversent la route aveuglés par les phares d'une voiture. Percuter un cerf qui peut peser jusqu'à 250 kg peut faire très mal et se terminer très mal pour la voiture et ses occupants. Le plus souvent, le véhicule est bon à la casse. Pour les touristes qui voudraient assister aux rues des cervidés en Tchéquie, qu'ils soient des amis de la nature ou des adeptes de Saint-Hubert, nous recommandons les agences de voyage spécialisées dans ce genre de séjour. C'est le plus pratique, car elles s'occupent de tout, du transport, du séjour et de l'hébergement. En ce qui concerne les chasseurs étrangers, il faut posséder un permis de chasse ou l'acheter, mais il n'est pas indispensable de prendre son arme. Il est possible, en effet, d'en louer sur place. Les amateurs peuvent aussi s'adresser directement aux unions des chasseurs, ou bien encore aux différentes chasses. Pour cela, l'Internet est le plus pratique, mais il faut avoir la possibilité de correspondre en tchèque. Pour ce qui est des étrangers qui viennent le plus souvent à la chasse en Tchéquie, la première place revient toujours, du moins en ce qui concerne le gros gibier, aux Allemands et aux Autrichiens. Les Français ou autres Européens viennent plutôt pour le petit gibier. Et les chances de tirer un 14 branches dans les forêts tchèques, elles sont grandes, car tout le territoire tchèque est l'objet d'un surpeuplement en gibier de toutes sortes. Un peu moins certes en ce qui concerne les cerfs, mais pourquoi ne pas passer des moments inoubliables en regardant un combat de jeunes chevreuils en rue qui vous tiendra en haleine pendant de longues minutes. Vous garderez longtemps en mémoire l'ardeur des coups de bélier que se portent les deux adversaires, souvent sous l'œil attentif des femelles cachées dans le sous-bois des environs. Dernière information pour les chasseurs, la chasse aux cerfs, chevreuils ou daims est ouverte du mois d'août au mois de décembre en République tchèque. C'est avec cette musique de cor de chasse que prend fin notre rubrique touristique consacrée aux rues des Servidés cette semaine, et c'est aussi ainsi que prend fin l'émission en langue française de Radio Prague.
Listening to Radio Prague, the national service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.